Chapitre 4 Petit coucher et conversion inattendue du roi Henri III. Après cette scène commencée en tragédie et terminée en comédie, et dont le bruit échappé au dehors comme un écho du Louvre se répandit par la ville, le roi, tout courroucé, reprit le chemin de son appartement, suivi de Chicot, qui demandait à souper. « Je n'ai plus faim, dit le roi, en franchissant le seuil de sa porte. « C'est possible, dit Chicot, mais moi j'enrage et je voudrais mordre quelque chose, ne fût-ce qu'un gigot. » Le roi fit comme s'il n'avait pas entendu. Il dégrafa son manteau qu'il posa sur son lit, ôta son toquet, maintenu sur sa tête par de longues épingles noires, et le jeta sur un fauteuil. Puis, s'avançant vers le couloir qui conduisait à la chambre de Saint-Luc, laquelle n'était séparée de la sienne que par une simple muraille, « Attends-moi ici, bouffon, dit-il, je reviens. » « Oh, ne te presse pas, mon fils, dit Chicot, ne te presse pas. Je désire même, continua-t-il en écoutant le pas de Henri qui s'éloignait, que tu me laisses le temps de te ménager une petite surprise. » Puis, lorsque le bruit des pas fut tout à fait éteint, « Holà, dit-il, en ouvrant la porte de l'antichambre, un valet accourut. « Le roi a changé d'avis, dit-il, il veut un joli souper fin pour lui et Saint-Luc. Surtout, il a recommandé le vin. Allez, laquais. » Le valet tourna sur ses talons et courut exécuter les ordres de Chicot, qu'il ne doutait pas être les ordres du roi. Quant à Henri, il était passé, comme nous l'avons dit, dans l'appartement de Saint-Luc, lequel, prévenu de la visite de sa majesté, s'était couché et se faisait lire des prières par un vieux serviteur qui, l'ayant suivi au Louvre, avait été fait prisonnier avec lui. Sur un fauteuil doré dans un coin, la tête entre ses deux mains, dormait profondément le page qu'avait amené Bussy. Le roi embrassa toutes ces choses d'un coup d'œil. « Qu'est-ce que ce jeune homme ? » demanda-t-il à Saint-Luc avec inquiétude. « Votre Majesté, en me retenant ici, ne m'a-t-elle pas autorisé à faire venir un page ?»« Oui, sans doute, » répondit Henri III. « Eh bien, j'ai profité de la permission, sire. »« Ah ! Sa Majesté se repent-elle de m'avoir accordé cette distraction ?» demanda Saint-Luc. « Non pas, mon fils, non pas. Distrais-toi, au contraire. Eh bien, comment vas-tu »« Sire, dit Saint-Luc, j'ai une grande fièvre. » « En effet, dit le roi, tu as le visage empourpré, mon enfant. Voyons le pouls, tu sais que je suis un peu médecin. » Saint-Luc tendit la main avec un mouvement visible de mauvaise humeur. « Fouida, dit le roi, plein, intermittent, agité. « Oh, sire, dit Saint-Luc, c'est qu'en vérité, je suis bien malade. « Sois tranquille, dit Henri, je te ferai soigner par mon propre médecin. « Merci, sire, je déteste Miron. » « Ah, je te garderai moi-même. Oh, sire, je ne souffrirai pas. Je vais faire dresser un lit pour moi, dans ta chambre, Saint-Luc. Nous causerons toute la nuit. J'ai mille choses à te raconter. »« Ah !» s'écria Saint-Luc, désespéré. « Vous vous dites médecin, vous vous dites mon ami, et vous voulez m'empêcher de dormir. Ah, morbleu ! Docteur, vous avez une drôle de manière de traiter vos malades. Morbleu, sire, vous avez une singulière façon d'aimer vos amis. Mais quoi ? Tu veux rester seul, souffrant comme tu es ?» « Sûr, j'ai mon page Jean. Mais il dort. C'est comme cela que j'aime les gens qui me veillent. Au moins, il ne m'empêche pas de dormir moi-même. Laisse-moi au moins te veiller avec lui. Je ne te parlerai que si tu te réveilles. Sûr, j'ai le réveil très maussade, et il faut être bien habitué à moi pour me pardonner toutes les sottises que je dis avant d'être bien éveillé. Au moins, viens assister à mon coucher. Et je serai libre après de revenir me mettre au lit. » « Parfaitement libre. Eh bien, soit, mais je ferai un triste courtisan, je vous en réponds. Je tombe de sommeil. Oh, tu bailleras tout à ton aise. »« Quelle tyrannie, dit Saint-Luc, quand vous avez tous vos autres amis. Ah oui, ils sont dans un bel état, et Bussy me les a bien accommodés. Schomberg a la cuisse crevée, d'Épernon a le poignet tailladé comme une manche à l'espagnol, Quélus est encore tout édourdi de son coup de poing d'hier et de son embrassade d'aujourd'hui. Reste Do qui m'ennuie à mourir, et Maugiron qui me boude. Allons, réveille ce grand bélitre de page et fais-toi passer une robe de chambre. Sire, si votre majesté veut me laisser, pourquoi faire ? Le respect. Allons donc. Sire, dans 5 minutes, je serai chez votre majesté. Oh, dans 5 minutes, soit, mais pas plus de 5 minutes, entends-tu? Et pendant ces 5 minutes, trouve-moi de bons contes, Saint-Luc, et que nous tâchions de rire un peu. Et là-dessus, le roi, qui avait obtenu la moitié de ce qu'il voulait, sortit à moitié content. La porte ne fut pas plutôt refermée derrière lui que le page se réveilla en sursaut et d'un bond fut à la portière. Ah, Saint-Luc, dit-il, quand le bruit des pas se fut perdu, vous allez encore me quitter, mon Dieu, quel supplice, je meurs d'effroi ici, si l'on allait découvrir. Ma chère Jeanne, dit Saint-Luc, Gaspard que voici, et il lui montrait le vieux serviteur, vous défendra contre toute indiscrétion. Alors, autant vaut que je m'en aille, dit la jeune femme en rougissant. Si vous l'exigez absolument, Jeanne, dit Saint-Luc, d'un ton attristé, je vous ferai reconduire à l'hôtel Montmorency, car la consigne n'est que pour moi. Mais si vous étiez aussi bonne que belle, si vous aviez dans le cœur quelque sentiment pour le pauvre Saint-Luc, vous l'attendriez quelques instants. Je vais tant souffrir de la tête, des nerfs et des entrailles que le roi ne voudra pas d'un si triste compagnon et me renverra coucher. Jeanne baissa les yeux. Allez donc, dit-elle, j'attendrai, mais je vous dirai comme le roi, ne soyez pas longtemps. Jeanne, ma chère Jeanne, vous êtes adorable, dit Saint-Luc. Rapportez-vous-en à moi, de revenir le plus tôt possible près de vous. D'ailleurs, il me vient une idée, je vais la mûrir un peu, et à mon retour, je vous en ferai part. Une idée qui vous rendra la liberté, je l'espère. Alors allez. Gaspard, dit Saint-Luc, empêchez bien que personne n'entre ici. Puis, dans un quart d'heure, fermez la porte à clef, apportez-moi cette clef chez le roi. Allez dire à l'hôtel qu'on ne soit pas inquiet de madame la comtesse et ne revenez que demain. Gaspard promit, en souriant, d'exécuter les ordres que la jeune femme écoutait en rougissant. Saint-Luc prit la main de sa femme, la baisa tendrement et courut à la chambre de Henri qui déjà s'impatientait. Jeanne, toute seule et toute frémissante, se blottit dans l'ample rideau qui tombait des tringles du lit, et là, rêveuse, inquiète, courroucée, elle chercha de son côté, en jouant avec une sarbacane, un moyen de sortir victorieuse de l'étrange position où elle se trouvait. Quand Saint-Luc entra chez le roi, il fut saisi du parfum âpre et voluptueux qu'exhalait la chambre royale. Les pieds de Henri foulaient en effet une jonchée de fleurs dont on avait coupé les tiges de peur qu'elles n'offensassent la peau délicate de Sa Majesté. Roses, jasmin, violettes, giroflées, malgré la rigueur de la saison, formaient un moelleux et odorant tapis au roi Henri III. La chambre, dont le plafond avait été abaissé et décoré de belles peintures sur toile, était meublée, comme nous l'avons dit, de 2 lits, l'un desquels était si large que, quoique son chevet fût appuyé au mur, il tenait près du tiers de la chambre. Ce lit était d'une tapisserie d'or et de soie à personnages mythologiques, représentant l'histoire de Séné ou de Sénis, tantôt homme et tantôt femme, laquelle métamorphose ne s'opérait pas, comme on peut le présumer, sans les plus fantastiques efforts de l'imagination du peintre. Le ciel du lit était de toile d'argent, lamé d'or et de figures de soie, et les armes royales, richement brodées, étaient appliquées à la portion du baldaquin qui, appliquée à la muraille, formait le chevet du lit. Il y avait aux fenêtres même tapisserie qu'au lit, et les canapés et les fauteuils étaient formés de même étoffe que celle du lit et des fenêtres. Au milieu du plafond, une chaîne d'or laissait pendre une lampe de vermeil dans laquelle brûlait une huile qui répandait, en se consumant, un parfum exquis. À la droite du lit, un satyre d'or tenait à la main un candélabre où brûlaient 4 bougies parfumées aussi. Ces bougies, grosses comme des cierges, jetaient une lumière qui, jointe à celle de la lampe, éclairait suffisamment la chambre. Le roi, les pieds nus posés sur les fleurs qui jonchaient le parquet, était assis sur sa chaise d'ébène incrustée d'or. Il avait sur les genoux 7 ou 8 petits chiens épagneuls tout jeunes et dont les frais museaux chatouillaient doucement ses mains. 2 serviteurs triaient et frisaient ses cheveux retroussés comme ceux d'une femme, sa moustache accrochée et sa barbe rare floconneuse. Un troisième enduisait le visage du prince d'une couche onctueuse de crème rose, d'un goût tout particulier et d'odeur des plus appétissantes. Henri fermait les yeux et se laissait faire avec la majesté et le sérieux d'un dieu indien. Saint-Luc, disait-il, où est Saint-Luc? Saint-Luc entra. Chicot le prit par la main et l'amena devant le roi. Tiens, dit-il à Henri, le voici, ton ami Saint-Luc. Ordonne-lui de se débarbouiller, ou plutôt de se barbouiller aussi avec de la crème. Car si tu ne prends cette indispensable précaution, il arrivera une chose fâcheuse. On lui sentira mauvais pour toi, qui sent si bon, ou toi tu sentiras trop bon pour lui, qui ne sentira rien. Ça, les graisses et les peignes, ajouta Chicot, en s'étendant sur un grand fauteuil en face du roi. J'en veux tâter aussi, moi. Chicot, Chicot, s'écria Henri, votre peau est trop sèche et absorberait une trop grande quantité de crème. À peine y en a-t-il assez pour moi, et votre poil est si dur qu'il casserait mes peignes. Ma peau s'est séchée à tenir la campagne pour toi, prince ingrat, et si mon poil est dur, c'est que les contrariétés que tu me donnes le tiennent continuellement hérissé. Mais si tu refuses la crème pour mes joues, c'est-à-dire pour mon extérieur, c'est bon, mon fils, je ne te dis que cela. Henri haussa les épaules, un homme peu disposé à s'amuser des facéties de son bouffon. « Laissez-moi, dit-il, vous radoter. » Puis, se tournant vers Saint-Luc, « Eh bien, mon fils, dit-il, ce mal de tête. » Saint-Luc porta la main à son front et poussa un gémissement. « Figure-toi, continua Henri, que j'ai vu Bussy d'Amboise. « Aïe, monsieur, dit-il au coiffeur, vous me brûlez. » Le coiffeur s'agenouilla. « Vous avez vu Bussy d'Amboise, sire ?» dit Saint-Luc, tout frissonnant. « Oui, répondit le roi. Comprends-tu ces imbéciles qui l'ont attaqué à 5 et qui l'ont manqué? Je les ferai rouer. Ah, si tu avais été là, dis donc, Saint-Luc. « Sire, répondit le jeune homme, il est probable que je n'eusse pas été plus heureux que mes compagnons. Allons donc, que dis-tu? Je gage 1000 écus d'or que tu touches 10 fois Bussy contre Bussy 6. Ah, pardieu, il faudra que demain nous voyons cela. Tires-tu toujours, mon enfant ?» Mais oui, sire. Oh, je demande si tu t'exerces souvent. Presque tous les jours, quand je me porte bien, mais quand je suis malade, sire, je ne suis bon à rien, absolument. Combien de fois me touchais-tu? Nous faisions jeu égal à peu près, sire. Oui, mais je tire mieux que Bussy. Par la mordieu, monsieur, dit Henri à son barbier, vous m'arrachez la moustache. Le barbier s'agenouilla. Sire, dit Saint-Luc, indiquez-moi un remède pour le mal de cœur. Il faut manger, dit le roi. « Oh, sire, je crois que vous vous trompez. »« Non, je t'assure. »« Tu as raison, Valois, » dit Chicot. « Et comme j'ai grand mal de cœur ou d'estomac, je ne sais pas bien lequel, je suis l'ordonnance. » Et l'on entendit un bruit singulier, pareil à celui qui résulte du mouvement très multiplié des mâchoires d'un singe. Le roi se retourna et vit Chicot, qui, après avoir englouti à lui tout seul le double souper qu'il avait fait monter au nom du roi, faisait jouer bruyamment ses mandibules tout en dégustant le contenu d'une tasse de porcelaine du Japon. « Eh bien, dit Henri, que diable faites-vous là, monsieur Chicot ?»« Je prends ma crème à l'intérieur, dit Chicot, puisqu'extérieurement elle m'est défendue. » « Ah, traître !» s'écria le roi en faisant un demi-tour de tête si malencontreux que le doigt pâteux du valet de chambre emplit de crème la bouche du roi. « Mange, mon fils, dit gravement Chicot, je ne suis pas si tyrannique que toi, intérieur ou extérieur, je te les permets toutes deux. Ah, « Monsieur, vous m'étouffez !» dit Henri au valet de chambre. Le valet de chambre s'agenouilla comme avaient fait le coiffeur et le barbier. « Qu'on aille me chercher, mon capitaine des gardes !» s'écria Henri. « Qu'on aille me le chercher à l'instant même !»« Pourquoi faire, ton capitaine des gardes ?» demanda Chicot, passant son doigt dans l'intérieur de la tasse de porcelaine et faisant glisser ensuite son doigt entre ses lèvres. « Pour qu'il passe son épée au travers du corps de Chicot, et que si maigre qu'il puisse être, il en fasse un rôti à mes chiens !» Chicot se redressa et se coiffant de travers. « Par la mordieu, dit-il, du Chicot à tes chiens, du gentilhomme à tes quadrupèdes, eh bien, qu'il y vienne, mon fils, ton capitaine des gardes, et nous verrons. » Et Chicot tira sa longue épée, dont il s'escrima si plaisamment contre le coiffeur, contre le barbier, contre le valet de chambre, que le roi ne put s'empêcher de rire. « Mais j'ai faim, dit le roi, d'une voix dolente, et le coquin a mangé à lui seul tout le souper. » « Tu es un capricieux, Henri, dit Chicot. Je t'ai offert de te mettre à table et tu as refusé. En tout cas, il reste ton bouillon. Moi, je n'ai plus faim et je vais me coucher. » Pendant ce temps, le vieux Gaspard était venu apporter la clé de son maître. « Moi aussi, dit Saint-Luc, car je manquerais, si je restais plus longtemps debout, de respect à mon roi en tombant devant lui dans des attaques nerveuses. J'ai le frisson. » « Tiens, Saint-Luc, dit le roi, en tendant au jeune homme une poignée de petits chiens, emporte, emporte. Pourquoi faire? Demanda Saint-Luc. Oh, pour le faire coucher avec toi, ils prendront ton mal et tu ne l'auras plus. Merci, sire, dit Saint-Luc, en remettant les chiens dans leur corbeille. Je n'ai pas de confiance dans votre recette. Ah, je t'irai voir cette nuit, Saint-Luc, dit le roi. Oh, ne venez pas, sire, je vous en supplie, dit Saint-Luc. Vous me réveilleriez en sursaut, et l'on dit que cela rend épileptique. Et sur ce, ayant salué le roi, il sortit de la chambre, poursuivi par les signes d'amitié que lui prodigua Henri, tant qu'il put le voir. Chico avait déjà disparu. Les deux ou trois personnes qui avaient assisté au coucher sortirent à leur tour. Il ne resta près du roi que les valets qui lui couvrirent le visage d'un masque de toile fine enduite de graisse parfumée. Des trous pour le nez, pour les yeux et pour la bouche étaient ménagés dans ce masque. Un bonnet d'une étoffe de soie et d'argent le fixait sur le front et aux oreilles. Puis on passa les bras du roi dans une brassière de satin rose, bien douillettement doublée de soie fine et de ouate. Et puis on lui présenta des gants d'une peau si souple qu'on eût dit qu'ils étaient de tricot. Ces gants montaient jusqu'aux coudes et ils étaient oints intérieurement d'une huile parfumée qui leur donnait cette élasticité dont à l'extérieur on cherchait inutilement la cause. Ces mystères de la toilette achevée, on fit boire à Henri son consommé dans une tasse d'or. Mais avant de le porter à ses lèvres, il en versa la moitié dans une autre tasse toute pareille à la sienne et ordonna qu'on envoyât cette moitié à Saint-Luc en lui souhaitant une bonne nuit. Ce fut alors le tour de Dieu qui, ce soir-là, sans doute à cause de la grande préoccupation du roi, fut traité assez légèrement. Henri ne fit qu'une seule prière sans même toucher à ses chapelets bénis. Et faisant ouvrir son lit bassiné avec de la coriandre, du benjoin et de l'encannelle, il se coucha. Puis, une fois accommodé sur ses nombreux oreillers, Henri ordonna que l'on enlevât la jonchée de fleurs qui commençait à épaissir l'air de la chambre. On ouvrit pendant quelques secondes les fenêtres pour renouveler cet air trop chargé de carbone, après quoi un grand feu de sarment brûla dans la cheminée de marbre et, rapide comme un météore, ne s'éteignit néanmoins qu'après avoir répandu sa douce chaleur dans tout l'appartement. Alors le valet ferma tout, rideaux et portières, et fit entrer le grand chien favori du roi, qui s'appelait Narcisse. D'un bond, il sauta sur le lit du roi, trépigna, tourna un instant, puis il se coucha en s'allongeant en travers sur les pieds de son maître. Enfin, on souffla les bougies roses qui brûlaient aux mains du satyre d'or, on baissa la lumière de la veilleuse en y substituant une mèche moins forte, et le valet, chargé de ces derniers détails, sortit à son tour sur la pointe du pied. Déjà plus tranquille, plus nonchalant, plus oublieux que ces moines oisifs de son royaume enfouis dans leurs grasses abbayes, le roi de France ne se donnait plus la peine de songer qu'il y eût une France. Il dormait. Une demi-heure après, les gens qui veillaient dans les galeries et qui, de leurs différents postes, pouvaient distinguer les fenêtres de la chambre de Henri, virent à travers les rideaux s'éteindre tout à fait la lampe royale et les rayons argentés de la lune remplacer sur les vitres la douce lumière rose qui les colorait. Ils pensèrent en conséquence que Sa Majesté dormait de mieux en mieux. En ce moment, tous les bruits du dedans et du dehors s'étaient éteints, et l'on eût entendu la chauve-souris la plus silencieuse voler dans les sombres corridors du Louvre. 2 heures se passèrent ainsi. Soudain, un cri terrible retentit. Ce cri était parti de la chambre de Sa Majesté. Cependant, la veilleuse était toujours éteinte, le silence toujours profond, et nul bruit ne se faisait entendre, sauf cet étrange appel du roi, car c'était le roi qui avait crié. Bientôt, on distingua le bruit d'un meuble qui tombait, d'une porcelaine qui éclatait en morceaux, des pas insensés courant dans la chambre, puis ce furent des cris nouveaux mêlés à des aboiements du chien. Aussitôt, les lumières brillent, les épées reluisent dans les galeries, et les pas lourds des gardes appesantis par le sommeil ébranlent les piliers massifs. « Aux armes » crie-t-on de toutes parts, « aux armes, le roi appelle, courons chez le roi !» Et au même instant, s'élançant d'un pas rapide, le capitaine des gardes, le colonel des Suisses, les familiers du château, les arquebusiers de service se précipitèrent dans la chambre royale qu'un jet de flamme inonda aussitôt. 20 flambeaux illuminèrent la scène. Près du fauteuil renversé, des tasses brisées, Devant le lit en désordre et dont les draps et les couvertures étaient épars dans la chambre, Henri, grotesque et effrayant dans son attirail de nuit, se tenait, les cheveux hérissés, les yeux fixes. Sa main droite était étendue, tremblante comme une feuille au vent. Sa main gauche, crispée, se cramponnait à la poignée de son épée qu'il avait machinalement saisie. Le chien, aussi agité que le maître, le regardait, les pattes écartées, et hurlait. Le roi paraissait muet à force de terreur, et tout ce monde n'osait rompre le silence, s'interrogeant des yeux, attendant avec une anxiété terrible. Alors parut à demi habillée, mais enveloppée dans un vaste manteau, la jeune reine, Louise de Lorraine, blonde et douce créature qui mena la vie d'une sainte sur cette terre et que les cris de son époux avaient réveillée. Sire, dit-elle, plus tremblante que tout le monde, qu'y a-t-il donc, mon Dieu? Vos cris sont arrivés jusqu'à moi et je suis venue. Ce n'est rien, dit le roi, sans mouvoir ses yeux qui semblaient regarder dans l'air une forme vague et invisible pour tout autre que lui. Mais votre majesté a crié, reprit la reine, votre majesté est donc souffrante? La terreur était peinte si visiblement sur les traits de Henri qu'elle gagnait peu à peu tous les assistants. On reculait, on avançait, on dévorait des yeux la personne du roi pour s'assurer qu'il n'était pas blessé, qu'il n'avait pas été frappé de la foudre ou mordu de quelque reptile. « Oh, sire, s'écria la reine, sire, au nom du ciel, ne nous laissez pas dans une pareille angoisse, voulez-vous un médecin ?»« Un médecin, dit Henri, du même ton sinistre, non, le corps n'est point malade, c'est l'âme, c'est l'esprit, non, non, pas de médecin, un confesseur. » Chacun se regarda, on interrogea les portes, les rideaux, le parquet, le plafond. En aucun lieu n'était restée la trace de l'objet invisible qui avait si fort épouvanté le roi. Cet examen était fait avec un redoublement de curiosité. Le mystère se compliquait, le roi demandait un confesseur. Aussitôt la demande faite, un messager a sauté sur son cheval, des milliers d'étincelles ont jailli du pavé de la cour du Louvre. 5 minutes après, Joseph Foulon, le supérieur du couvent de Sainte-Geneviève, était réveillé, arraché, pour ainsi dire, de son lit, et il arrivait chez le roi. Avec le confesseur, le tumulte a cessé, le silence se rétablit. On s'interroge, on conjecture, on croit deviner, mais surtout, on a peur. Le roi se confesse. Le lendemain, au grand matin, le roi, levé avant tout le monde, ordonne qu'on referme la porte du Louvre, qui ne s'est ouverte que pour laisser passer le confesseur. Et puis on fait venir le trésorier, le cirier, le maître des cérémonies. Il prend 16 heures reliées de noir et lit des prières, s'interrompt pour découper des images de saints et tout à coup commande que l'on fasse venir tous ses amis. À cet ordre, on passa d'abord chez Saint-Luc, mais Saint-Luc était plus souffrant que jamais. Il languit, il est écrasé de fatigue, son mal est dégénéré en accablement, son sommeil, ou plutôt sa léthargie si profonde que seuls tous les commensaux du palais, quoiqu'une mince muraille le sépare seul du prince, il n'a rien entendu de la scène de la nuit. Aussi demande-t-il à rester au lit, il y fera toutes les prières que le roi ordonnera. À ce déplorable récit, Henri fait le signe de croix, ordonne qu'on lui envoie son apothicaire. Puis il recommande qu'on apporte au Louvre toutes les disciplines du couvent des Génovéfains. Il passe, vêtu de noir, devant Schomberg qui boite, devant d'Épernon qui a le bras en écharpe, devant Quélus encore tout édourdi, devant Do et Maugiron qui tremble. Il leur distribue en passant des disciplines et leur ordonne de se flageller le plus rudement que leurs bras puissent frapper. D'Épernon fait observer qu'ayant le bras droit en écharpe, il doit être excepté de la cérémonie, attendu qu'il ne pourra rendre les coups qu'on lui donnera, ce qui fera pour ainsi dire un désaccord dans la gamme de la flagellation. Henri III lui répond que sa pénitence n'en sera que plus agréable à Dieu. Lui-même donne l'exemple, il ôte son pourpoint, sa veste, sa chemise et se frappe comme un martyr. Chicot a voulu rire et gausser selon son habitude, mais un regard terrible du roi lui a appris que ce n'était pas l'heure. Alors il a pris comme les autres une discipline, seulement au lieu de se frapper, il assomme ses voisins, et lorsqu'il ne trouve plus aucun torse à sa portée, il enlève les écailles de la peinture, des colonnes et des boiseries. Ce tumulte racénère peu à peu le visage du roi, quoiqu'il soit visible que son esprit reste toujours profondément frappé. Tout à coup, il quitte sa chambre en ordonnant qu'on l'attende. Derrière lui, les pénitences cessent comme par enchantement. Chico seul continue de frapper sur Do, qu'il a en exécration. Do le lui rend le mieux qu'il peut. C'est un duel à coups de martinet. Henri est passé chez la reine. Il lui a fait don d'un collier de perles de 25 000 écus, l'a embrassé sur les deux joues, ce qui ne lui est plus arrivé depuis plus d'un an, et l'a supplié de déposer les ornements royaux et de se couvrir d'un sac. Louise de Lorraine, toujours bonne et douce, y consent aussitôt. Elle demande pourquoi son mari, en lui donnant un collier de perles, désire qu'elle se mette un sac sur les épaules. « Pour mes péchés, » répond Henri. Cette réponse satisfait la reine, car elle connaît mieux que personne de quelle somme énorme de péchés son mari doit faire pénitence. Elle s'habille au gré de Henri, qui revient dans sa chambre en y donnant rendez-vous à la reine. À la vue du roi, la flagellation recommence. Do et Chico, qui n'ont point cessé, sont en sang. Le roi les complimente et les appelle ses vrais et seuls amis. Au bout de 10 minutes, la reine arrive, vêtue de son sac. Aussitôt, on distribue des cierges à toute la cour, et pieds nus, par cet horrible temps de givre et de neige, les beaux courtisans, les belles dames et les bons parisiens, dévots au roi et à Notre-Dame, s'en vont à Montmartre, grelottant d'abord, mais échauffés bientôt par les coups furieux que distribue Chico à tous ceux qui ont le malheur de se trouver à portée de sa discipline. Do s'est avoué vaincu et a pris la file à 50 pas de Chico. À 4 heures du soir, la promenade lugubre était terminée, les couvents avaient reçu de riches aumônes, les pieds de toute la cour étaient gonflés, le dos de tous les courtisans était écorché. La reine avait paru en public avec une énorme chemise de toile grossière, le roi avec un chapelet de tête de mort. Il y avait eu des larmes, cris, prières, encens, cantiques. La journée, comme on le voit, avait été bonne. En effet, chacun a souffert du froid et des coups pour faire plaisir au roi, sans que personne ait pu deviner pourquoi ce prince, qui avait si bien dansé l'avant-veille, se macérait ainsi le surlendemain. Les huguenots, les ligueurs et les libertins ont regardé passer en riant la procession des flagellants, disant en vrai dépréciateurs que sont ces sortes de gens que la dernière procession était plus belle et plus fervente, ce qui n'était point vrai. Henri est rentré à jeun avec ses longues raies bleues et rouges sur les épaules. Il n'a pas quitté la reine de tout le jour et il a profité de tous les moments de repos, de toutes les stations aux chapelles pour lui promettre des revenus nouveaux et faire des plans de pèlerinage avec elle. Quant à Chico, las de frapper et affamé par l'exercice inusité auquel l'a condamné le roi, il s'est dérobé un peu au-dessus de la porte Montmartre, et avec le frère Goranflot, ce même moine génovais fin qui a voulu confesser Bussy et qui est de ses amis, il est entré dans le jardin d'une guinguette fort en renom, où il a bu du vin épicé et mangé une sarcelle tuée dans les marais de la grange batelière. Puis, au retour de la procession, il a repris son rang et revenu au Louvre, frappant de plus belle les pénitents et les pénitentes et distribuant, comme il le disait lui-même, ses indulgences plénières. Le roi arrivé, le roi se sentit fatigué de son jeûne, de sa course pieds nus et des coups furieux qu'il s'était donnés. Il se fit servir un souper maigre, bassiné les épaules, allumé un grand feu, et passa chez Saint-Luc, qu'il trouva allègre et dispos. Depuis la veille, le roi était bien changé. Toutes ses idées étaient tournées vers le néant des choses humaines, vers la pénitence et la mort. « Ah, dit-il, avec un accent profond de l'homme dégoûté de la vie, Dieu a, en vérité, bien fait de rendre l'existence si amère. »« Pourquoi cela, sire ?» demanda Saint-Luc. « Parce que l'homme fatigué de ce monde, au lieu de craindre la mort, y aspire. »« Pardon, sire, dit Saint-Luc, parlez pour vous, mais je n'y aspire pas du tout à la mort. »« Écoute, Saint-Luc, dit le roi, en secouant la tête. » « Si tu faisais bien, tu suivrais mon conseil, je dirais plus mon exemple. »« Bien volontiers, sire, si cet exemple me sourit. »« Veux-tu que nous laissions, moi, ma couronne, toi, ta femme, et que nous entrions dans un cloître, J'ai les dispenses de notre Saint-Père le Pape. Dès demain, nous ferons profession. Je m'appellerai frère Henri. Pardon, sire, pardon. Vous tenez peu à votre couronne, que vous connaissez trop, mais moi, je tiens beaucoup à ma femme, que je ne connais pas encore assez. Donc, je refuse. Oh, dit Henri, tu vas mieux à ce qu'il paraît. Infiniment mieux, sire. Je me sens l'esprit tranquille, le cœur à la joie. J'ai l'âme disposée d'une manière incroyable au bonheur et au plaisir. Pauvre Saint-Luc, dit le roi en joignant les mains. C'était hier, sire, qu'il fallait me proposer cela. Oh, hier j'étais quinteux, maussade, endolori. Oh, pour un rien, je me serais jeté dans un puits. Mais ce soir, c'est autre chose. J'ai passé une bonne nuit, une journée charmante, et, mordieu, vive la joie! Tu jures, Saint-Luc, dit le roi. Mais je jurais, sire. Ah, c'est possible, mais vous jurez aussi quelquefois, à vous, ce me semble. J'ai juré, Saint-Luc, mais je ne jurerai plus. Je n'ose pas dire cela. Je jurerai le moins possible. Voilà la seule chose à laquelle je vais m'engager. D'ailleurs, Dieu est bon et miséricordieux pour nos péchés, quand nos péchés tiennent à la faiblesse humaine. Tu crois donc que Dieu me pardonnera? Je ne parle pas pour vous, sire, je parle pour votre serviteur. Peste, vous, vous avez péché en roi, tandis que moi j'ai péché en simple particulier. J'espère bien que le jour du jugement, le Seigneur aura deux poids et deux balances. Le roi poussa un soupir, murmura un confiteor, se frappa la poitrine au mea culpa. Saint-Luc, dit-il à la fin, veux-tu passer la nuit dans ma chambre? C'est selon, demanda Saint-Luc, qui ferons-nous dans la chambre de votre majesté? Nous allumerons toutes les lumières, je me coucherai, et tu me liras les litanies des saints. Merci, sire. Tu ne veux donc pas? Je m'en garderai bien. Tu m'abandonnes, Saint-Luc, tu m'abandonnes? Non, je ne vous quitte pas, au contraire. Vraiment? Si vous voulez. Certainement, je le veux. Mais à une condition sine qua non. Laquelle? C'est que votre majesté va faire dresser des tables, envoyer chercher des violons et des courtisanes, et, ma foi, nous danserons. Saint-Luc, Saint-Luc, s'écria le roi au comble de la terreur. Tiens, dit Saint-Luc, je me sens folâtre ce soir, moi. Voulez-vous boire et danser, sire? Mais Henri ne répondait point. Son esprit, parfois si vif et si enjoué, s'assombrissait de plus en plus et semblait lutter comme une secrète pensée qui l'alourdissait, comme ferait un plomb attaché aux pattes d'un oiseau qui étendrait vainement ses ailes pour s'envoler. « Saint-Luc, dit enfin le roi d'une voix funèbre, rêves-tu quelquefois ?»« Souvent, sire. »« Tu crois au rêve ?»« Par raison. »« Comment cela ?» « Eh oui, les rêves consolent de la réalité. Ainsi, cette nuit, j'ai fait un rêve charmant. »« Lequel ?»« J'ai rêvé que ma femme... »« Ah, tu penses encore à ta femme, Saint-Luc ?»« Plus que jamais. »« Ah, fit le roi avec un soupir en regardant le ciel. » »« J'ai rêvé, continua Saint-Luc, que ma femme avait, tout en gardant son charmant visage, car elle est jolie, ma femme, sûr. » Hélas, oui, dit le roi, Ève était jolie aussi, malheureux, et Ève nous a tous perdus. Ah, voilà donc d'où vient votre rancune, mais revenons à mon rêve, sire. Moi aussi, dit le roi, j'ai rêvé. Ma femme donc, tout en gardant son charmant visage, avait pris les ailes et la forme d'un oiseau, et tout aussitôt, bravant guichets et gris, elle avait passé par-dessus les murailles du Louvre et était venue donner du front contre mes vitres avec un charmant petit cri que je comprenais, qui disait « Ouvre-moi, Saint-Luc, ouvre-moi, mon mari !»« Et tu as ouvert ?» dit le roi, presque désespéré. « Je le crois bien !» s'écria Saint-Luc, et avec empressement encore. « Mondain !» Mondain, tant que vous voudrez, sire. Et tu t'es réveillé, alors? Non pas, sire, je m'en suis bien gardé. Le rêve était trop charmant. Alors tu as continué de rêver. Le plus que j'ai pu, sire. Et tu espères, cette nuit? Ah, rêver encore, oui, n'en déplaise à votre majesté. Voilà pourquoi je refuse l'offre obligeante qu'elle me fait d'aller lui dire des prières. Si je veille, sire, je veux au moins trouver l'équivalent de mon rêve. Ainsi, si, comme je l'ai dit à votre majesté, elle veut faire dresser des tables, envoyer chercher des violons, Assez, Saint-Luc, assez, dit le roi en se levant. Tu te perds, et je me perdrais avec toi si je demeurais plus longtemps ici. Adieu, Saint-Luc, j'espère que le ciel t'enverra, au lieu de ce rêve tentateur, quelque rêve salutaire, qui t'amènera à partager demain mes pénitences, et à nous sauver de compagnie. J'en doute, sire, et même j'en suis si certain que si j'ai un conseil à donner à votre majesté, c'est de mettre dès ce soir à la porte du Louvre ce libertin de Saint-Luc qui est tout à fait décidé à mourir impénitent. Non, dit Henri, non, j'espère que d'ici à demain, la grâce te touchera comme elle m'a touché. Ah, bonsoir, Saint-Luc, je vais prier pour toi. Bonsoir, sire, je vais rêver pour vous. Et Saint-Luc commença le premier couplet d'une chanson plus que légère, que le roi avait l'habitude de chanter dans ses moments de bonne humeur, ce qui activa encore la retraite du roi, qui ferma la porte et rentra chez lui en murmurant « Seigneur mon Dieu, votre colère est juste et légitime, car le monde va de mal en pire. »